Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 8h.
Je pense que l'OTAN aujourd'hui nécessite une très grande clarification stratégique. L'OTAN a été construit pour faire face au pacte de Varsovie. Il n'est plus. On a besoin de dire qui est notre ennemi et où.
L'ennemi de l'OTAN est-il la Russie, comme au temps de la guerre froide, ou bien la Chine et sa puissance cyber et militaire? Les 30 pays de l'organisation se réunissent aujourd'hui à Bruxelles, où nous serons en direct dans un instant, et doivent s'accorder sur leurs véritables priorités. Dans ce journal, l'ordre de mission du général Burkhard, futur chef d'état-major des armées, qui rêve de renforcer les effectifs des forces françaises. Et puis, Willy Bardon, à quelques heures de son procès en appel dans l'affaire Élodie Kulik, l'accusé s'exprime publiquement 19 ans après les faits. Nous l'entendrons dans ce journal. Dans 10 minutes, Novak Djokovic, quelques heures seulement après son deuxième sacre à Roland-Garros, il est sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Et puis à 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La tournée européenne de Joe Biden qui se poursuit, les menaces de Boris Johnson qui s'intensifient, on en parle avec le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Beaune, rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. D'un sommet à l'autre, après 3 jours au G7, pandémie, inégalité, climat, place à 3h à l'OTAN. Cette organisation était en mort cérébrale, selon Emmanuel Macron, il y a moins de 2 ans, quand l'Alliance était tiraillée du désintérêt de Donald Trump aux bravades de Recep Erdogan.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, pour Europe 1, bien sûr, où se tient ce sommet. Alors, avec Joe Biden comme président des États-Unis, certains pensent déjà que l'OTAN est redevenue plus forte, mais côté français, on ne veut pas que l'Europe se rendorme pour autant.
Oui, c'est clair, Emmanuel Macron le martèle, il veut désormais un vrai partenariat Europe-États-Unis d'égal à égal. Il ne veut pas juste du retour du grand frère. D'ailleurs, le président a lancé quelques pics ces derniers jours, par exemple sur la Chine que les États-Unis voudraient faire identifier comme le nouvel ennemi commun. La Chine n'est pas dans la géographie atlantique, ou alors ma carte a un problème, a-t-il fait remarquer lors d'une conférence de presse. Mais pas sûr que ces velléités d'indépendance soient trop du goût des autres Européens, de l'Allemagne notamment. Ils veulent, eux, d'abord savourer le retour des États-Unis, effacer le traumatisme de Donald Trump. En 2018, lors du précédent sommet de Bruxelles, il avait provoqué un esclandre. Contraste, Joe Biden a réaffirmé hier déjà que la défense d'un allié attaqué restait une obligation sacrée pour les États-Unis. En tout cas, lors de cette journée, les dirigeants doivent jeter les bases du futur concept stratégique de l'Alliance pour 2030. Quels sont ses nouveaux ennemis? Le cyber, le terrorisme, la Chine, la Russie? C'est le sommet des retrouvailles, mais il doit y avoir du fond aussi.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Dans ce contexte de redéfinition du rôle de l'Alliance militaire, à plus court terme, la France s'apprête à changer de chef d'état-major des armées. François Lecointre va céder la place mi-juillet au général Burkhard. Celui-ci sera donc le troisième qu'aura connu Emmanuel Macron au cours de son quinquennat, après Pierre de Villiers qui avait démissionné en 2017.
Louis Dragnel, pour autant, ce changement ne devrait pas fragiliser le lien entre les armées et l'exécutif?
Eh bien non, parce que le général Thierry Burkhard est clairement l'homme de la situation. Premièrement, parce qu'il s'est préparé depuis plusieurs mois à devenir le patron de toutes les armées de terre, de l'air et de la marine. Ensuite, c'est un atout, le général Burkhard, qui est aujourd'hui chef d'état-major de l'armée de terre, a travaillé par le passé à l'Élysée. Il connaît parfaitement les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, tout en restant évidemment loyal. À noter aussi que ce légionnaire de 56 ans a été porte-parole des armées, autant dire qu'il connaît parfaitement les enjeux de la communication. Pour terminer, le général Burkhard a une vision stratégique. Il est d'ailleurs convaincu qu'après s'être modernisé et professionnalisé, l'armée française doit entamer une nouvelle phase. Pour lui, face au durcissement des relations internationales, il faut que les forces françaises augmentent leur masse, c'est-à-dire augmentent leurs effectifs. Mais pour avancer vite, il le sait, il a d'abord besoin de convaincre le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République.
Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
La politique israélienne et la fête hier soir à Tel Aviv, place Rabin.
Plusieurs milliers de personnes rassemblées pour marquer à leur façon un départ, celui de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre après 12 ans. C'est le Parlement qui a donné le signal, approuvant de justesse, 60 voix face à 59, le nouveau gouvernement de Naftali Bennett, 49 ans, cet homme de droite devenu millionnaire dans la high-tech. Il est à la tête d'une coalition allant de l'extrême droite à la gauche, incluant aussi des islamistes. Mais vous allez l'entendre, Benjamin Netanyahou ne se voit pas dehors pour très longtemps.
Si c'est notre destin d'être dans l'opposition, nous le ferons la tête haute. Nous allons faire tomber ce mauvais gouvernement et nous serons de retour pour diriger le pays à notre manière.
Benjamin Netanyahou devant la Knesset, le Parlement israélien hier soir. La politique en France et plus précisément en Bretagne, à 6 jours maintenant des élections régionales. Jean-Yves Le Drian ne départage toujours pas ses deux potentiels héritiers. Mais le ministre des Affaires étrangères les appelle à s'allier après le premier tour. Loïc Chesnay-Girard est aujourd'hui président sortant de la région sous l'étiquette PS, tandis que Thierry Burlot porte les couleurs d'En Marche.
L'Élysée veut en faire un geste pour les jeunes. Comme Europe 1 vous le révélait au début du mois de mai, Emmanuel Macron doit prochainement annoncer une garantie jeune universelle.
500 euros par mois en échange d'un accompagnement obligatoire vers l'emploi. Jean-Rémy Baudeau, vous suivez ce dossier pour Europe 1. Dispositif qui pourrait être généralisé, cela inquiète notamment au ministère de l'Économie.
Oui, et c'est bien cette généralisation qui crée des sueurs froides à Bercy. Objectif, 700 000 à 1 million de bénéficiaires. Les calculettes ont chauffé et une note du ministère de l'Économie parle d'une dépense de 2,4 milliards d'euros par an. Un chiffre qui ne comprend pas les coûts d'accompagnement. Une dépense massive et des questions sur les effectifs nécessaires. Un ministre à Bercy pense que les missions locales n'auront jamais les salariés suffisants pour accompagner autant de monde. On risque une dilution de l'encadrement des jeunes, dit-il. Il faudra en urgence former des formateurs. Pas de quoi impressionner d'autres membres du gouvernement. Selon nos informations, la montée en puissance du dispositif est actuellement étudiée par un énarque qui pilote l'ensemble. Le coup de pression de Bercy pourrait-il fragiliser le projet porté par Elisabeth Borne ? A priori non, car tous les ministres que j'ai pu interroger, qu'ils soient pour ou contre ce dispositif, tous s'accordent sur un point. C'est Emmanuel Macron qui tranchera et le signal politique qu'il recherche avec cette garantie jeune universelle dépasse largement le coût de cette mesure.
Jean-Rémy Baudeau.
L'affaire nous ramène un soir de janvier 2002 dans la Somme. Élodie Kulik, directrice d'agence bancaire, appelle les secours car sa voiture vient d'être projetée dans un fossé.
Les pompiers entendent ses cris et plusieurs voix d'hommes. Son corps sera retrouvé 2 jours plus tard en partie brûlé. Des années après, on identifiera un homme par son ADN, mais il était mort entre-temps dans un accident de voiture. Quant à Willy Bardon, plusieurs témoins affirment reconnaître sa voix sur l'enregistrement du coup de téléphone. En novembre 2019, il était condamné pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort. Il avait aussitôt avalé un produit pesticide en plein tribunal.
Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, vous suivez cette affaire depuis le début Lionel. Aujourd'hui commence le procès en appel de Willy Bardon. Il a choisi de s'exprimer publiquement.
Oui, effectivement, Willy Bardon affirme que s'il a tenté de se suicider à l'énoncé du premier verdict, vous en parliez à l'instant, et bien c'est parce que il ne supportait pas d'être accusé d'un crime qu'il assure ne pas avoir commis. Un an et demi après, et bien il dit avoir retrouvé la force de combattre pour démontrer qu'il n'a pas participé au viol et au meurtre d'Élodie Kulik.
Je veux que les gens comprennent que, comme je le dis toujours, j'ai rien à voir là-dedans. On m'accuse d'être quelqu'un de très malhonnête envers tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont dit énormément de bêtises. Aujourd'hui, nous, on travaille avec mes avocats pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement. Et de faire voir aux gens que tout ce qui m'a été reproché, c'est faux.
Pourtant, plusieurs témoins ont formellement reconnu la voix de Willy Bardon au milieu des hurlements d'Élodie dans cet enregistrement de l'appel aux pompiers qu'elle avait passé quelques secondes avant son agression. Alors la protestation d'innocence de Bardon, eh bien, elle ne fait pas douter Jackie Kulik, le papa de la jeune femme.
Vous savez, personne n'est dupe. Il a beau essayer de paraître, ses avocats ont beau essayer de le faire passer pour quelqu'un de respectable. C'est pas du tout le cas. Pour moi, il n'y a aucun doute. J'aurais espéré que cette fois-ci, le traitement sera encore plus sévère. Moi, je demande la perpétuité.
Contrairement au premier procès à Amiens, Bardon comparaîtra détenu aujourd'hui à Douai. Il a été réincarcéré il y a quelques jours pour violation de son contrôle judiciaire. Il avait contacté l'un des témoins au procès.
Lionel Gougelot en direct pour Europe 1. Ce procès aux assises à Douai doit durer jusqu'au 2 juillet.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'interview d'un grand champion hors norme, le seul à avoir remporté 2 fois chacun des 4 tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic, sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
8h10 sur Europe 1, Roland-Garros, c'est terminé, ça y est, c'est terminé depuis hier et c'est Novak Djokovic qui s'est imposé face à Tsitsipas. 19 victoires en Grand Chelem, 20 pour Nadal et Federer. Rendez-vous compte, c'est vous dire de quel type de grand champion on parle. En exclusivité pour Europe 1, parce que nous sommes radio officielle des internationaux de France de tennis, Novak Djokovic, le vainqueur, a répondu aux questions de Corinne Boulou.
Bonjour Novak.
Bonjour.
Et félicitations.
Merci.
Alors, ce titre, après avoir battu Rafael Nadal en demi-finale, et ce match en 5-7 face à Stefanos, c'est incroyable. Vous étiez en mission, Novak, à Roland-Garros, et vous en voulez toujours plus?
Oui, je veux tous les jours plus, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de motivation et je suis inspiré de jouer mon meilleur tennis sur le Grand Chelem, évidemment, qui sont le plus grand tournoi que nous avons dans le tennis, dans notre sport. Oui, j'ai une ambition très haute et j'ai approché cette tournoi avec bonne sensation sur les cours, gagné le tournoi à Belgrade avant et venu ici avec beaucoup de confiance et je pense que les dernières 48 heures sont été vraiment spéciales pour moi, gagner contre Nadal à son cours où lui est très dominant dans son carrière. Et après cette victoire pour revenir de 2 matchs 0 de déficit, c'est fantastique, vraiment, je suis très heureux.
Et maintenant en anglais, parce que je sais que vous êtes fatigué, une victoire à Melbourne, une victoire à Roland-Garros, le Grand Chelem gagné dans les 4 tournois dans la même saison, c'est quelque chose de possible maintenant pour vous?
Tout est possible, bien sûr. J'ai réussi énormément de choses que beaucoup pensaient impossibles, donc pourquoi pas? Je vais viser le titre à Wimbledon, à l'US Open et aux Jeux Olympiques. Ce sont les 3 plus gros objectifs de la saison pour moi, et pour le reste de la saison, je suis en très bonne position. Je vais essayer d'utiliser cette confiance en moi, accumulée à Roland-Garros, pour bien jouer à Wimbledon. C'est dans 2 semaines. Ce n'est pas idéal pour passer de la terre battue au gazon, mais j'ai fait un fantastique parcours en 2018 ou en 2019. J'ai gagné les titres. L'année dernière, ça n'a pas joué, donc j'espère rester sur cette même dynamique.
Merci Novak.
Merci beaucoup. Thank you.
Ouais, c'était Novak Djokovic sur Europe 1 en exclusivité radio officielle des internationaux de France de tennis de Roland-Garros. Corinne Boulou au micro. Corinne qui vous a fait vivre évidemment cette édition de Roland-Garros sur Europe 1 avec tout le service des sports. Il est 8h14 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Mathieu Béliard.